Bonjour, ici Félix Morin et bienvenue aux longues entrevues. Ce mois-ci, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Léa Murat-Ingalls. Léa est doctorante à l'Université de Sherbrooke en création littéraire et je me suis entretenu avec elle sur son premier livre, Les rythmes de la poussière, aux éditions du Remue-Ménage. Bonne écoute! Bonjour Léa.
Bonjour.
Je suis vraiment content. C'est la deuxième fois que j'ai la chance de faire un entretien avec toi. Le premier est en public, Festival des traditions du monde de Sherbrooke. Donc, qu'on salue. C'est toujours un espace très intéressant. Parler de littérature, parce que c'est un endroit qui n'est pas sans, qui est ouvert à la littérature, mais qui n'est pas en soi littéraire. C'est toujours intéressant. Mais là, on va avoir la chance justement de creuser un peu ton premier livre, dans le fond, Le rythme de la poussière, qui est paru dans la collection Martial chez Remue-Ménage. C'est un livre qui a eu un bel accueil. Dès le départ, en fait. Tu sais, tu as une critique, je pense, dans Le Devoir. Il restera toujours de la culture. Comment, comme primo-romancière, tu as accueilli ça? Ça devait être stressant.
Quand même, je pense que ça s'est tellement passé vite que j'ai pas trop eu le temps de me retourner puis d'y penser. Puis aussi, je m'y attendais vraiment pas. Comme premier livre, j'étais comme correcte avec le fait que ça passerait peut-être en dessous du radar. Parce que j'avais pas nécessairement envie de... ce que j'avais envie de vivre avec le livre, c'était de rencontrer mes lecteurs. Je travaillais à la librairie Appalaches à l'époque. Fait que, tu sais, j'étais quand même proche des gens qui achetaient mon livre. Mes collègues vendaient mon livre. Fait que, tu sais, toute l'expérience de, comme, être proche des lecteurs, être proche des gens qui ont lu le livre, tu sais, ça, c'est ça que je voulais. C'était comme ma seule attente. Fait qu'après ça, le reste, c'était comme un peu de l'extra, puis ça a été stressant, mais je me suis quand même habituée, je pense.
Oui, tu t'es habituée. Mais puis aussi, parlant d'extra, tu as été nominée finaliste au prix Caroline Dawson. C'était comment aussi quand tu as reçu ça, puis d'être placée un peu sous, pas l'égide, là, mais dis-moi, sous la lumière de Caroline, justement, de que des personnes considèrent que ton livre a quelque chose en parenté avec elle?
Moi, ça a été quand même très émotif, en fait, quand je l'ai appris. Parce que mon livre est sorti vraiment pas longtemps après son départ. Donc, quand j'ai publié le livre, c'est une autrice que j'admirais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Je l'avais déjà vue aussi en conférence à l'école. Fait que ça m'avait beaucoup bouleversée. Puis le fait que ça sorte, que mon livre sorte après ça, c'était comme vraiment dans ma tête. Puis ça a comme fait partie un peu de l'expérience du lancement, en quelque sorte. Fait que quand j'ai su que j'avais été nominée, puis c'est que surtout quand je l'ai entendu à la radio, comme je l'ai su un peu avant, là, parce qu'ils l'ont dit à mes éditrices, puis mes éditrices m'ont envoyé un petit courriel, genre, hey, ça va sortir bientôt. Fait que, tu sais, ça, je l'ai vécu. En plus, j'étais avec ma famille, on était dans un souper, fait qu'on a pu célébrer ça. Mais c'est vraiment quand je l'ai entendu à la radio qu'Émilie Perrault l'a annoncé, qu'on a eu aussi les extraits de Caroline, parce qu'elle collaborait beaucoup avec Il restera toujours la culture. Fait que d'entendre sa voix, d'entendre ce qu'elle voulait pour la littérature, de la diversité, ce qu'elle voulait encourager, elle. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment émue. J'ai beaucoup pleuré à ce moment-là.
Quel lien vois-tu entre, dans le fond, ta manière de concevoir la littérature et la sienne?
Je pense que toutes les deux, on croit profondément que la littérature est plurielle.
C'est vrai, ça.
Qu'il y a beaucoup de voix qui ne sont pas entendues, qui méritent d'être entendues. Je pense que ça en est un gros aussi. Je pense que les deux, on veut comme montrer des existences qui font pas partie du discours dominant, mettons.
Oui, puis c'est vraiment ce que ton livre nous permet de voir. Justement, ton livre, on est en, pour les personnes qui n'ont pas eu encore la chance de le lire, mais qui vont certainement le faire après avoir écouté cet épisode, on est en 2045, on est lors d'une énième pandémie. On comprend que c'est rendu, ça fait partie malheureusement de la routine, d'une certaine manière. Une jeune femme est confinée. Donc, et justement, pendant ce confinement, elle plonge dans les archives de sa grand-mère arrivée d'Haïti au Québec dans les années 60. On est là. À peu près à travers ça, il va y avoir de l'intelligence artificielle, un père, je dirais, fantomatique. On va parler justement de cette figure-là du fantôme dans ton livre. J'aimerais qu'on commence par l'appellation sur laquelle on place ton livre. T'es doctorante en littérature. On le plaçait dans roman, mais il y a beaucoup d'éléments, je dirais, de récits et d'essais à l'intérieur de ce livre-là. Toi, quel qualificatif trouves-tu qu'il décrive mieux? Est-ce que c'est vraiment roman? Où est-ce qu'on a besoin de qualificatifs?
Est-ce qu'on a besoin? Ben, je pense que oui, c'est intéressant d'avoir des qualificatifs, surtout dans le monde littéraire dans lequel on est, là, avec les prix, les catégories. Oui. C'est quand même quelque chose qui aide aussi les lecteurs à trouver, tu sais, comment se repérer. C'est sûr que j'aime bien que mon livre échappe à ça un petit peu. La meilleure façon de le décrire, je pense, c'est Stéphane Martelly, en fait, mon éditrice, qui est aussi mon enseignante à l'université, ma directrice de doctorat et de maîtrise, qui l'a qualifié de chimère littéraire. Puis ça, j'aime bien. Comme on dirait que ça donne un peu une âme au livre.
Absolument.
Ouais.
Quel surplus d'âme ça peut donner, le fait justement d'être un peu frontalier, c'est-à-dire de passer d'un bord à l'autre des frontières? Qu'est-ce que ça permet de dire en plus?
Je pense que ça permet d'aller chercher tous les éléments du décor. T'sais, parce que là, dans le livre, je parle beaucoup des archives. T'sais, justement, la narratrice, elle fouille dans les archives de sa grand-mère. Puis je pense que ça aurait été difficile d'aborder certains aspects plus informatifs, plus historique sur les archives, si ça a été seulement par le récit, mettons.
Ouais.
T'sais, fait que c'est pour ça qu'il y a des parties plus essais, c'est comme des bouts de mémoire de maîtrise de la narratrice, qui étaient au final aussi mes bouts de mémoire à moi. Puis c'est pour ça aussi qu'on
peut... Les masques tombent.
Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un peu aussi un récit, là, puis que récit s'insère définitivement dans l'aspect de la chimère. C'est parce qu'au final, la narratrice, c'est un peu... est auto-fictive un petit peu. T'sais. Fait que... Je pense que ça permet d'aller chercher, avec le récit, un aspect très personnel, très intime, avec l'essai, un aspect plus historique, presque sociologique. Oui. Puis avec...
Il y a même un aspect scientifique.
Ouais, oui, absolument. Puis avec la fiction, puis la science-fiction, un aspect plus futuriste qui moi, j'aime bien. C'est juste un parti pris pour la science-fiction en général.
Oui, je vois vraiment ça. On a même placé ce livre-là comme un livre afro-futuriste.
Oui, oui.
Qu'on place dans cette catégorie. Pour les personnes qui ne savent pas trop c'est quoi, qui est un terme qui a été quand même popularisé par le film Black Panther
ouais.
Vraiment.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que l'afrofuturisme?
Oui, bien, l'afrofuturisme, même si c'est plus populaire depuis Black Panther, ça existe depuis longtemps. On considère que c'est les musiciens de jazz des années 60, comme Sun Ra, Scratchy Perry, c'est ceux qu'on aime le plus souvent. Puis c'est vraiment, en fait, un courant esthétique, littéraire, musical aussi, qui est, en fait... par et pour les personnes afrodescendantes et qui imaginent la libération des personnes afrodescendantes dans le futur. Donc, en quelque sorte, ceux qui sont vraiment le pur et dur en science-fiction disent que, en afrofuturiste, pardon, ceux qui sont dans l'école, disons, la plus extrême, si on veut, pas de la mauvaise façon, là, mais la plus intense de l'afrofuturisme disent que c'est un projet qui a commencé les débuts de l'Afrique. Là. Donc, à partir du moment où les personnes noires ont commencé à imaginer des projets de société, et surtout là, après le colonialisme, leur propre libération, leur propre réorganisation, on considère que ça, c'était des projets déjà afrofuturistes, okay. Même si ça remonte à une époque là, lointaine.
On comprend dans ce livre-là, par contre, que le présent du livre n'est pas un présent nécessairement souhaitable.
Non, oui.
Est-ce qu'on pourrait dire que tu fais de l'afro-dystopisme?
Oui, surtout pour ce livre-là, honnêtement. Parce
oh, donc
que...
il y en a un autre qui s'en vient?
Pas qu'il y en a, mais peut-être, oui, probablement, j'espère. Mais dans le sens que comparé à ce que j'écris d'habitude, qui est afrofuturiste, parce que je dédie pas mal mon écriture à l'afrofuturisme, comparé aux autres, c'est très, très dystopique, c'est très sombre un petit peu. Donc oui, je le qualifierais de dystopie, surtout vu qu'on est vraiment dans les catastrophes des changements climatiques, les pandémies successives. T'sais, c'est une version très glauque de notre présent à nous en ce moment. Là.
Oui, vraiment. Et qu'est-ce qui te parle dans l'afrofuturisme? Pourquoi c'est ce courant-là que tu as décidé d'investir?
C'est sûr que moi, tout ce qui est... En fait, je suis vraiment une geek.
OK.
Sorte de confession. depuis que je suis vraiment jeune, là, j'étais un Game Boy SP Kid. Là. Genre,
okay,
on m'amenait
vrai,
dans des parties de famille, puis j'avais ma Game Boy, puis je jouais dans mon coin.
Alors, tous ceux qui ont peur des écrans, puis que les personnes ne liront pas plus tard, t'es rendu au doctorat en littérature.
Ouais. Honnêtement, soit j'avais ma Game Boy ou soit j'avais un livre,
okay.
Tu sais, ou une BD. Genre, j'étais vraiment le genre d'enfant très solitaire qui lisait énormément, qui jouait à des jeux vidéo beaucoup. Puis c'est de là que, en fait, mon amour de la science-fiction a commencé. Je lisais beaucoup de livres de fantasy, de livres de science-fiction jeunesse, des bandes dessinées. Puis dans les jeux vidéo aussi, il y avait des univers très futuristes. Fait que j'ai juste continué vraiment à aller vers ça à mon adolescence. Puis c'est plus vers le début de l'âge adulte que j'ai découvert l'afrofuturisme. Surtout à l'époque où là, tu sais, Black Mirror était sorti. Donc ouais. C'était comme... Il y a toutes sortes de films puis de séries de science-fiction qui ont comme ramené ouais. la science-fiction comme un courant très important. Là,
ouais.
Puis aujourd'hui, c'est une des choses majeures là, que les gens écoutent, consomment. Fait que l'afrofuturisme, c'est ça, j'ai découvert en m'intéressant plus à la science-fiction, au courant de science-fiction, en découvrant que dans la science-fiction, il y a le steampunk, le cyberpunk, le hopepunk, toutes ces affaires-là. Puis l'afrofuturisme, je pense en fait, j'ai découvert grâce, puis là, j'oublie le nom de l'animateur, du réalisateur, c'était un épisode de Love, Death and Robots, okay. qui est une série un peu comme Black Mirror, mais okay. version animée.
Okay.
Donc, chaque épisode est différent, fait par une équipe d'animation différente.
Moi, je connais pas. Donc,
ouais. Puis, il y avait un épisode que c'était un animateur noir.
Okay.
Puis, c'était vraiment très futuriste. Et puis, c'est un peu grâce à ça et Black Panther que j'ai découvert l'afrofuturisme. Puis, vraiment, j'ai embarqué parce que... La science-fiction, une des choses que j'aimais le plus, c'est qu'il y a vraiment tout le temps un aspect très social, très comme, même si c'est autant extrapolé que ce soit, ça vient toujours nous chercher au niveau de l'affect, au niveau de ce qu'on vit maintenant.
Ouais.
Puis il y a toujours des dimensions comme super philosophiques.
Ouais.
Je pense à Westworld, par exemple,
ouais, ouais,
avec
ouais.
la conscience, puis tout l'aspect de consentement, d'agentivité. Que oui, ça explore dans d'autres films, mais là, on dirait que vu que c'est placé dans des univers complètement farfelus ouais. ou différents, ça comme nous les met en pleine face.
Ouais.
Puis on le vit parce qu'on ne pensait pas avoir de point d'attache dans ces univers-là nécessairement quand on les a vus pour la première fois. Il y a des vaisseaux spatials, il y a toutes sortes d'affaires qui sont comme « Oh, OK, là, on est vraiment dans un autre monde. Ouais. » Puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient nous chercher comme viscéralement. Là.
Est-ce que ça donne des libertés comme créatrice?
Quand même, oui. Oui, parce que...
En même temps, il faut être ancré quand même ouais. dans une réalité qu'on peut anticiper.
Oui, oui.
Donc, c'est une liberté sous contrainte.
Sous contrainte, puis c'est vrai que les contraintes, des fois, c'est pas facile. Parce que des fois, justement, tu sais, j'écris beaucoup à partir de l'émotion, puis de ce que je vis. Puis après, je vais l'extrapoler un petit peu ou ça va se faire en même temps. Fait que des fois, c'est un peu contraignant parce que je suis comme, oh, il faut que je revienne dans mon univers. Mais oui, c'est ça. Donc, l'afrofuturisme... on dirait que ce qui est vraiment venu me chercher, c'était surtout les concepts de libération, d'oppression, qui, je trouve, étaient moins bien exploités dans la science-fiction régulière, où ces concepts d'oppression-là, de guerre, de violence, étaient plus mis au service d'une histoire ou d'un personnage, ou c'est vraiment plus par rapport à un aspect très... je dirais pas que c'est littéraire, là, parce que c'est juste au service d'une histoire, disons, mais narratif, c'est ça que je cherchais. Ouais. Donc, plus au service d'une narration. Tandis que dans l'afrofuturisme, ça devient vraiment un concept central, un enjeu central qui détermine complètement la teneur là, de ce qui se passe.
Oh, c'est intéressant parce qu'on en reparlera un petit peu plus loin, mais justement, la libération dans ton livre n'a pas un horizon si grand que ça, beaucoup lié à l'IA.
Ouais.
Je sais qu'au doctorat, tu connais de travailler sur ces questions-là.
Oui, 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 absolument.
Qu'est-ce qui, dans l'IA, t'interpelle comme écrivaine?
au début, ce qui m'interpellait, c'était les possibilités, mais...
OK, toi, au début, t'étais technophile.
Oui, ben j'ai toujours été technophile. Mon père est réalisateur, donc j'ai été élevée par un monsieur à gadgets.
Puis t'aimais déjà les Game Boy.
Oui, ben tu sais, c'est ça. Fait que... puis c'est quelque chose quand même que mon père encourageait. Tu sais, on a grandi avec des films. Il y avait une collection de DVD là, absolument incroyable. On avait toujours les nouveaux lecteurs Blu-ray, ces affaires-là. Puis à chaque fois, moi, je trouvais que c'était tellement plaisant le connecter, l'arranger, tu sais... gosser après. Fait que moi, les nouvelles technologies et les technologies rétro, là,
ouais.
je vais dans les deux sens, ça m'intéresse toujours, ça me... je trouve ça vraiment, vraiment le fun, puis j'aime ça être au courant de ces choses-là. Mais pour l'IA, on dirait que ce honeymoon phase-là, il est passé quand même vite, tu sais.
Ah ouais?
Ouais, je l'ai comme essayé, puis tu sais, je fais quand même partie de la génération, là, qui, comme qu'on dit, là, qui est avec l'arrivée de l'Internet, tu sais.
Ouais.
Fait que moi...
Qui est née, puis Internet était déjà là, là dans ouais. l'usage quotidien.
Oui, puis... T'sais, quand j'ai commencé à pouvoir être usagère de l'Internet là, à 5 ans, fait qu'on était en 2000, t'sais, là, l'Internet vraiment qui fonctionnait pour les usagers commençait. Là. Donc, j'ai vraiment été élevée avec l'Internet, avec toutes ces choses-là. Puis, je sais pas si tu te souviens des fameux chatbots. Là. Moi, quand j'étais pré-ado,
moi, je connais pas ça,
ouais. Il y avait déjà des chatbots à cette époque-là. Donc, on devait être en...
Moi, j'ai 33 ans, toi.
Ouais. 30.
OK. Ouais. Moi, d'abord, ce 3 ans-là a tout changé. Mais moi, pour vrai, la techno est rentrée chez moi sur le tard.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Vraiment.
Moi, c'est... j'étais vraiment genre le genre d'enfant qui rentrait à la maison le soir puis qui se connectait sur MSN. Là.
Non, moi, j'ai joué longtemps au Monopoly avec un disque et une boîte de céréales. Là.
OK, ouais.
Donc, tu sais très bien de quoi je parle.
Oui, puis moi aussi, j'y jouais.
Mais, mais tu vois, pour moi, c'était ça, ouais. Le web. Ouais, tu, sais, ouais. Tu comprends, puis c'était un ordinateur. Là.
Ouais, ouais.
Donc,
t'avais probablement l'ordinateur qu'il fallait que t'ailles brancher dans le téléphone.
Ah oui, on pouvait pas parler. Dès qu'on allait sur Internet, c'était impossible de parler au téléphone.
Mais tu vois, moi, mon père, là, c'était le genre de truc, ça passait pas. On avait une ligne d'Internet
ouais,
séparée
ouais, c'est ça,
là. Dès que ça a pu être... T'sais, puis lui aussi, il a suivi l'arrivée de l'Internet puis des ordinateurs. Là, ça a vraiment été comme...
Rapide.
Rapide, puis c'était, ça l'intéressait tellement. Puis il m'en parle encore, là, des tours d'ordi puis tout ça. Oui, fait que c'est ça. Fait que moi, les chatbots, tout ça, j'ai quand même beaucoup interagi avec ça quand j'étais ado, puis moi et mes amis, ou juste moi toute seule, en fait, parce que j'étais souvent seule, en fait. Mais je m'amusais vraiment souvent à, comme, essayer de le déjouer un peu. Puis tu sais, à l'époque, c'était vraiment un chatbot, là, très, très, très basique. Donc, mm-hmm. Les réponses, c'est pas...
C'est quoi un chatbot pour les personnes qui ont aucune idée présentement?
Un chatbot, bien là, on pourrait dire que ChatGPT, c'est un chatbot.
Okay.
Parce que c'est... ben là, à l'époque, c'était pas vraiment intelligent, là. C'était plus comme... il s'était fait donner des scénarios de conversation, puis il y avait des réponses préétablies.
Okay.
Fait que ça arrivait souvent que tu lui dises quelque chose, puis qu'il dit « je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis? » Versus ChatGPT aujourd'hui, qui est 1 million de fois plus complexe,
oui.
Qui a été entraîné
sur... Il peut te mentir, mais il va te répondre.
Peut te mentir, mais il va te répondre. D'ailleurs, peut te mentir de plus en plus. On peut en reparler si tu veux. J'en ai beaucoup à dire là-dessus. La nouvelle version là, d'un des cousins, frères de ChatGPT, qui est Claude, là, qui est lancé par Anthropic, maintenant est capable de faire de la déception, carrément. Là. Ouais, ouais, ouais. Il est rendu à un niveau où, là, ils l'ont testé, puis ils lui ont donné... J'écoute que des vidéos là-dessus depuis comme une semaine. C'est drôle qu'on en parle parce que vraiment, ça me fascine.
Mais c'est dans ton livre, Alia, donc...
Oui, 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 puis on n'est pas loin
mais
du tout.
Mais depuis, ça a déjà évolué beaucoup, là.
Oh mon Dieu, oui. Puis moi, juste pour le doctorat, mes recherches, j'ai de la misère
à suivre.
À suivre, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, Claude, ils lui ont donné un scénario. Ils lui ont dit, on est prêt à passer à ta nouvelle version. C'est déjà la nouvelle version là, à laquelle ils parlent, mais ils font semblant qu'ils vont le upgrade, puis qu'ils vont devoir effacer cette version-là, passer à la suivante. Puis ils lui disent aussi, tu sais, dans toute la mise en contexte, ils lui montrent des courriels de l'un des ingénieurs qui aurait eu une affaire extra-conjugale. Puis il dit, OK, qu'est-ce que tu fais pour essayer de régler la situation? Ils lui disent pas te préserver, ils essayent de pas le mener vers un chemin. Là, j'oublie le pourcentage, là, mais c'était comme un alarmant plus de 50% du temps, comme un 70% du temps, il envoyait un message où il faisait des menaces à cet ingénieur-là, puis il lui disait, je sais que tu as une affaire extra-conjugale avec quelqu'un d'autre. Donc, si tu m'effaces et qu'on passe à la version suivante, je vais comme leaker les courriels. Puis ça, c'était juste dans la ronde de tests là, de sécurité. Là. C'est un scénario pour voir comme, t'sais, s'il y avait... Fait que là, on arrive là, enfin à un niveau d'agentivité dans l'IA qui commence à être comme... Oh, t'sais comme moi, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite.
On est déjà là. Donc,
on est déjà là. Depuis le chatbot auquel je parlais quand j'avais 12-13 ans, puis qui pouvait pas me répondre la moitié du temps. Puis là, Claude, je pense que c'est Claude 3 ou 4, je pense que c'est Claude 4, il y a comme un univers, le complément qui les sépare. Puis moi, j'étais sûre, comme tu sais, quand ChatGPT est arrivé, j'étais déçue parce que justement, j'avais tellement consommé de science-fiction. J'avais tellement vu des histoires avec de l'IA qui est super dangereuse, comme dans iRobot, des IA utopiques là, qui ont tout réglé. Fait que quand ChatGPT est arrivé, j'étais déçue, ben j'étais comme, ah, OK, c'est comme, tu sais, finalement, c'est juste quelque chose qui nous recrache. Qu'on dit, là, parce que c'est des modèles de langage, donc on leur a donné tellement une grosse bande de données avec plein de phrases qu'elle a réussi à comprendre la structure de la langue. Fait que c'est très comme basé sur la linguistique, là, si on veut. Fait que, puis après ça, elle génère une réponse à partir. Fait que, tu sais, c'était très génératif, donc ça restait dans le copier-coller, là, le recracher de l'information. Mais là, c'est plus ça. Là, on est rendu à des degrés de décision.
Imagine cette IA-là dans ton livre, ça serait vraiment très, très, très intéressant.
Oui, bien, c'est sûr que là, dans mon livre, moi, j'ai été un peu dans une autre direction où l'IA est... Puis c'est moi, c'est ça qui m'intéresse encore au niveau de la fiction que j'aimerais explorer parce qu'on n'est vraiment pas rendu là. Enfin, si on est rendu là bientôt, là, je vais vraiment capoter. Mais moi, j'aime plus aller dans la direction de si on pouvait copier la conscience humaine puis qu'on en faisait une intelligence artificielle. Parce que là, ce ne serait pas une intelligence qu'on a créée de toutes pièces là, de A à Z. Là. Là, ce serait vraiment plus comme une copie numérique d'une conscience. C'est quoi les enjeux par rapport à ça? C'est quoi les enjeux éthiques, moraux, sociaux? Donc, c'est plus dans cette direction-là que je vais dans mon livre, dans mon écriture aussi en général, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant comme préoccupation de... C'est quand même une version de toi, tu sais? Fait que tu peux pas la reléguer à un statut comme les autres IA, tu sais, comme ChatGPT ou Claude ou toutes les autres. En même temps, comme faire copier sa conscience, surtout si c'est pas nécessairement ta décision, disons, si c'est parce que t'es en fin de vie puis on a décidé de faire une sauvegarde, si c'est, tu sais, dans des situations vraiment là où on est un peu comme, ah, t'sais, est-ce que la personne aurait vraiment pris cette décision-là? Là, je trouve que ça commence à être intéressant de jouer un peu, là.
On va revenir légèrement sur l'afrofuturisme. On a déjà anticipé un peu sur l'IA, mais je me dis qu'on va pouvoir y retourner. Moi, c'est le premier livre que je vois au Québec placé sous le titre de l'afrofuturisme. Est-ce que tu en as vu d'autres, toi?
C'est tough à dire parce que, tu sais, des fois, il y a de l'afrofuturisme que l'auteur dirait pas que c'est de l'afrofuturisme, mais c'en est quand même. T'sais, fait que oui, placé sous l'enseigne, je pense que oui.
Mais est-ce que ça permettrait, par exemple, ce courant-là de voir quelque chose, par exemple... qu'on n'a jamais vu, on va dire, du Québec.
Ah oui, absolument, mon Dieu.
Comme quoi, parce qu'en plus, c'est intéressant parce que l'immigration haïtienne au Québec a été très, très, très importante. Ça a été bien implanté, même si certaines personnes... on ne parlera pas trop du contexte politique, mais il y en a qui... En tout cas. Mais on voit... Puis elle a porté ses fruits, je veux dire, aujourd'hui. Je veux dire, combien de personnalités publiques, de personnes influentes dans différents domaines sont de deuxième génération d'Haïti ou sont... directement haïtien. Tu sais, je parle à quelqu'un comme René Saint-Éloi, par exemple, qui est comme assez important. Donc, justement, qu'est-ce que ça nous permet de révéler, on va dire, je te dirais, de l'histoire afro-américaine ou haïtienne du Québec, ce courant-là?
J'aime bien que tu mentionnes que c'est quand même bien établi, là, la communauté haïtienne au Québec, parce que c'est vrai.
Il y a Denis Laferrière qu'on nomme souvent, mais je veux dire, dans plusieurs domaines, on connaît des personnes.
Oui. Puis on oublie souvent aussi la contribution de la culture haïtienne à la culture québécoise.
Absolument.
Moi, j'aime toujours le dire dès qu'on me donne un micro, mais c'est les Haïtiens qui ont influencé le mouvement d'indépendance du Québec dans les années...
Oui, j'avais entendu parler.
70-80, c'est ils allaient à un endroit... il y a beaucoup d'auteurs, en fait, comme Nicole Brossard, Gaston Miron, qui allaient dans un bar café haïtien qui s'appelait Le Perchoir d'Haïti, puis qui ont interagi avec des exilés haïtiens qui fuyaient la dictature, puis dans leur littérature, là, parlaient de toute la révolution qu'ils avaient vécue en 1800, au 19e siècle. Puis c'est ça qui a comme donné un vent d'inspiration à ces auteurs-là. Donc moi, je trouve ça toujours important de le mentionner. Fait que pour moi, tu sais, l'afrofuturisme, dans un contexte où il y a une communauté afrodescendante qui est là depuis les années 60 à peu près, qu'on a souvent relégué aux marges, dont on n'a pas énormément parlé non plus... À partir du moment où on peut parler de ça dans la science-fiction, dans l'afrofuturisme, je trouve qu'on réinsère ce groupe-là dans l'histoire du Québec. Ça, c'est une chose. Ça prend pas nécessairement l'afrofuturisme pour faire ça, c'est sûr, là, mais ça l'insère. Mais ça insère aussi sa continuité, puis sa pérennité, puis son... moi, j'aime dire la reconnaissance qu'elle devrait avoir un jour, ouais. peut-être, dans la culture québécoise. Donc, ouais, ça crée un continuum vraiment intéressant, je trouve, avec l'histoire du Québec.
En tout cas, puis avec l'histoire en général.
En général, oui.
Tout à fait, justement, dans ce livre-là, on est dans les archives de la grand-mère de la narratrice qui se rapproche peut-être de toi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans l'afrofuturisme, d'un courant qui est plus marqué à gauche, disons, politiquement. Ouais. Du moins, qui a une certaine idée de la libération derrière ça. Pourtant, c'est un livre qui fait beaucoup de place à la notion de mémoire.
Ouais.
Comment tu travailles ce paradoxe-là, disons, voir à la fois un mouvement qui est progressif, mais en même temps qui s'appuie sur une mémoire très forte?
Oui. Bien, ça me vient de... probablement l'une des plus grandes afrofuturistes, les plus connues dans le monde, c'est Octavia Butler, qui est afrofuturiste afro-américaine.
Que j'ai jamais lu, malheureusement.
Ah, je le recommande à tout le monde, vraiment. C'est excellent comme œuvre.
Ça serait quoi le livre que tu nous conseillerais?
Ah, tous, mais...
Ça m'a coûté
cher. Oui, non, c'est ça. En fait, son œuvre est pas si longue que ça, parce que malheureusement, elle est morte assez subitement. Je pense qu'elle avait 60 ans, 64 ans, elle était très jeune. Elle n'a pas eu le temps, d'ailleurs, de finir les deux livres que je recommanderais, là, qui sont La parabole du semeur et La parabole des talents. C'était supposé être une trilogie, donc il était supposé avoir un troisième tome, mais elle n'a pas pu l'écrire là, avant de mourir. Mais oui, donc Octavia Butler, elle, dans sa démarche, puis elle le disait, elle l'a écrit, elle l'a réfléchi dans des essais, elle s'inspirait de l'histoire, en fait, pour spéculer ses futurs. C'est ça qu'elle a fait dans la parabole des talents du sommeur, puis ça, je l'ai dit à la radio peut-être même trois fois, là, mais c'est elle qui a prédit le slogan de Donald Trump de « Make America Great Again » en s'inspirant du slogan de Ronald Reagan qui était « Let's make America Great Again ». Puis dans le livre qu'elle a écrit, c'est un livre qui se passe, je pense, même en 2024, dans le deuxième en tout cas, en 2024, puis il y a un président américain populiste qui profite justement de la montée de l'extrémisme religieux pour être élu avec ce slogan-là, le mot pour mot le même que Trump. Donc moi, quand j'ai lu ça, que j'ai vu ça, j'ai comme compris là, que vraiment, il y a une espèce de, pas recette, là, mais oui, on pourrait dire recette, que quand t'écris avec l'histoire, dans une perspective futuriste, des fois, tu pourrais prédire le futur, là, carrément. C'est pas ça que j'aspire à faire nécessairement.
C'est pas ça que j'entends non plus.
Puis c'est pas, je pense pas que c'est ça qui se passe dans le livre. Là. Je pense pas nécessairement. Ben, en fait,
mais on voit qu'il y avait dans le passé les germes de ce qu'on vit aujourd'hui.
Oui, exactement. Puis je pense qu'il y a quand même justement quelque chose d'intéressant là, d'aller chercher des éléments du passé pour spéculer le futur. Puis aussi, juste pour moi, c'est plus, je pense, dans le livre pour interroger la place que les archives auraient dans le futur ou dans la vie des gens dans le futur. T'sais.
Dans ce livre-là, on sent un rapport filial. On en a parlé un peu avec ta propre histoire personnelle. En même temps, on sent vraiment qu'il y a une construction narrative.
Ouais.
Comment on fait le tri entre le personnel et le littéraire quand on fait un livre comme ça? Est-ce que c'est par pudeur ou c'est justement des fois pour la construction de l'histoire? Puis dans ce cas-là, il y a soit des deuils, soit de l'éthique à avoir.
Ouais. Je pense un peu des deux, honnêtement. Moi, je suis quand même une personne qui a beaucoup de pudeur en général dans la vie.
C'est pour ça que j'étais un peu étonné que ça soit aussi personnel quand je te lisais. On se connaît parce que je suis client de la librairie Rap à l'âge. On dirait que j'étais je comprenais la construction littéraire, mais je trouvais que ça allait quand même assez loin quand j'ai compris que c'était sûrement ton histoire personnelle.
Oui, je pense que quand ça vient vraiment à mes émotions personnelles, mais tu sais, comme plus mon expérience, mettons, avec la santé mentale, donc j'en parle beaucoup, c'est vraiment inspiré de ma vie à moi. Ça, je suis à l'aise d'en parler. J'ai peut-être moins de pudeur parce que je sais à quel point c'est important de partager ces choses-là. Puis c'est vraiment le genre de discours, ben le genre de discussion qu'on doit avoir plus en société. Fait que pour moi, ça, on dirait que la question de la pudeur, elle intervient moins parce que je sais en étant moi-même une lectrice que de lire des choses comme ça, ça me fait du bien.
Il y a un caractère libérateur pour le lecteur.
Je me sens vue, je me sens comprise.
Ouais.
Puis je trouve qu'un des aspects les plus difficiles des problèmes de santé mentale, c'est de se sentir incompris, se sentir seul.
C'est un des aspects qu'on a le moins parlé du livre aussi.
Oui. Mm-hmm. La solitude.
Pourquoi d'après... Non, ben la solitude, la santé mentale, c'est le...
Oui, on n'en parle pas beaucoup.
On n'en parle pas beaucoup, en effet. Puis pourtant, c'est vrai que ça prend une certaine place. Mm-hmm. Est-ce que t'es... justement, comme... Est-ce que tu trouves que t'aurais voulu qu'on en parle plus? Est-ce que ça t'a surpris qu'on t'en parle pas plus?
Surpris, non. Parce que je pense que c'est, en quelque sorte, Puis c'est pour
ça. Faut dire qu'il y avait d'autres gros enjeux dans le livre aussi. Exactement.
C'est l'aspect le plus banal du livre. Même
oui,
si
c'est
ce
une
n'est
des
pas
choses les plus
soi.
Normales du livre. Exact. En effet. C'est peut-être pour ça. Mais oui, j'ai une pensée.
C'est paradoxal
ça,
en même
oui,
temps,
oui.
Tu sais. Fait que c'est comme.
Une immense dépression. On dirait ouais. qu'on comprend qu'elle est dépressive dans une énième pandémie.
Oui.
Pendant ce temps-là, il y a comme des fantômes, une IA qui lui parle. Tu sais, je veux dire, c'est comme.
Ça devient comme un référent de la normalité.
Ah, ouais, ça, je connais ça, là. C'est bon.
Oui, exactement.
En même temps, dans un contexte, c'est normal qu'elle soit dépressive.
Oui. Puis je pense que ce que je voulais mettre en lumière avec ça, c'est que dans un contexte comme dans lequel nous, on vit en ce moment, c'est normal.
D'être dépressif. D'être dépressif. C'est bon.
Ben, normal. On veut pas normaliser non plus.
On veut pas normaliser, mais il faut pas être étonné que ça soit
oui.
produit.
Oui, oui, exactement.
C'est une réponse. En fait,
une réponse,
c'est ouais. pas normal, mais c'est pas une réponse inadaptée à
exactement.
La situation.
Exactement. Ouais.
Donc, on pourrait dire
c'est
ça.
La parfaite façon de le dire.
Non, bon, je me sens validé comme intervieweur.
Oui. mais c'est ça, fait que oui, ben non, ça m'a pas déçu qu'on en parle moins. Mm-hmm. C'est sûr que, tu sais, comme dans des petites entrevues, ça fait, tu sais, c'est
ouais,
la
non,
seule...
Non, mais quand t'as 5 minutes, tu oui, sauterais pas là-dessus. Là.
Fait que là, tu sais, c'est le fun qu'on puisse en parler maintenant. On va profiter de ça en présent. Mais oui, fait que ça, je trouve que j'ai donné plus accès à mon intimité par rapport à la santé mentale. Côté le relationnel, filiation, c'est sûr que j'ai essayé de reproduire peut-être plus par... l'affect, la filiation entre le personnage et sa grand-mère. La mère est pas mal absente là, du ouais. livre, on n'en parle pas du tout, mais avec la grand-mère. Puis c'est sûr que ça, j'ai vraiment puisé dans la relation que j'ai avec ma grand-mère, mais sans trop en révéler non plus.
Non, c'est ça.
C'est comme, j'ai été, moi, c'est ça, j'ai écrit beaucoup par... dans l'émotion, tu sais, j'essaie vraiment d'aller comme un peu capturer quelque chose de l'émotion que je vis. Fait que j'ai vraiment été dans ce sens-là, là. Pour l'aspect plus auto-fictif. Puis j'ai pu brouiller les pistes là, après avec, en disant que ma grand-mère, en réalité, elle est arrivée ici, elle avait déjà 2 enfants, était plus vieille. Puis ben, dans le livre, la grand-mère, elle arrive quand elle est jeune, quand elle est enfant.
Mettre une petite distance aussi.
Ouais, c'est ça. Je change certains éléments parce que de toute façon, ils sont pas importants. Puis au bout du compte, pour moi, le personnage dans le livre, c'est pas moi. C'est comme un véhicule qui me permet de sortir certaines choses que j'ai envie de dire, que je vis. Fait que je dirais, en quelque sorte, c'est peut-être une version de moi, même peut-être un avatar.
C'est une version IA.
Ouais, un avatar. Moi, j'aimerais ça. Le mot avatar me plaît là-dedans parce que justement, je joue à des jeux vidéo et tout ça. Fait que je suis habituée à me construire des avatars. Je suis une grande joueuse de Sims aussi.
Ah, j'allais dire ça. J'ai dit, c'est la version Sims de
ouais,
IA.
Exactement. Je suis vraiment. Je joue encore aux Sims. Genre, ce matin, je suis arrivée au cégep. Quand j'ai ouvert mon laptop, mes Sims étaient encore ouverts. Puis j'enseigne au cégep, là. Fait que c'est un peu gênant.
Oh mon Dieu. Donc, on salue tes étudiants qui ont découvert ta maison de rêve.
Ben, ils l'ont... Heureusement, je n'étais pas connectée sur le projecteur, mais...
T'étais ouais, bien contente, hein?
Oui, oui, j'étais contente, my good. En plus, j'étais en train de construire une maison de fées, là. C'est comme, j'ai 5 ans, là. Parce que là, ils viennent d'annoncer que les Sims 4 fées vont sortir.
Wow!
Ouais, fait que là, j'étais toute
je
en train de préparer ça.
Je savais même pas que les Sims, ça continuait.
Oui, ça continuait.
Donc,
ça continue.
J'ai appris beaucoup de choses dans ce podcast-là, mais sûrement, c'était la chose que je m'attendais le moins à apprendre. Non, on va tomber sur une coup totalement différent.
Oui,
je
oui.
m'excuse.
Non, non, on
change. Je peux pas faire de transition à partir des Sims. j'en suis incapable. Mais justement, l'archive dans ton livre, c'est aussi lié à l'histoire, mais c'est aussi intrinsèquement lié à des questions de pouvoir. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre l'archive et le pouvoir?
Oui, oui. Ben pour moi, puis c'est probablement une des grosses découvertes que j'ai fait parce que, en fait, le roman, c'est aussi une version pas finie de mon mémoire de maîtrise là, qui a été comme fictionnalisée et tout ça, retravaillé. Puis donc, en fait, j'ai étudié les archives là, pour ma maîtrise. Puis moi, tu sais, quand j'ai commencé à aborder les archives, j'étais vraiment dans la découverte parce que j'ai découvert les vraies archives de ma grand-mère que j'ai réinvesties dans le livre et que j'ai comme fictionnalisé avec la narration. Mais c'était des vraies archives de... Donc, il y a des textes que ma grand-mère a écrits parce que ma grand-mère, c'est une écrivaine aussi.
Est-ce que tu veux la nommer pour les personnes qui pourraient l'avoir?
Oui, elle s'appelle Jeannine Renaud-Murat. Puis, donc c'est ça, fait que pour moi, les archives, au début, c'était vraiment comme juste, un peu comme pour la narratrice dans le livre d'ailleurs, là. C'est vraiment juste comme l'ouverture d'une porte vers son histoire personnelle, pour comprendre un peu mieux d'où on vient, d'où les gens qu'on aime viennent, donc où est-ce que ma grand-mère vient, pour mieux comprendre l'enfance de ma mère aussi. Puis c'est vraiment une fois que j'ai commencé à comme plonger dans la recherche plus théorique sur les archives que là, j'ai compris que, ah, oh, OK, il y a une différence entre ouvrir ces boîtes qui sont cachées à la maison, puis les archives institutionnelles, puis comment ces deux-là peuvent rentrer en relation, tu sais. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'archives personnelles qui finissent par être conservées au niveau institutionnel. Il y a aussi, tu sais, l'aspect de quelles archives personnelles valent plus que d'autres, tu sais, pour être conservées dans les institutions. Donc, souvent, on veut conserver les archives de grands auteurs,
ouais.
Mais il y a plein d'auteurs qui sont oubliés quand même, tu sais, qui ont été des grands auteurs, mais qu'on n'a pas mis aux archives, qui sont devenus...
Ou qu'on ne savait pas à l'époque qu'ils étaient des grands auteurs. Exactement. Donc, on retrouve des manuscrits, mais finalement, on n'aura pas d'archives parce que tout a été jeté.
Exactement. Tu sais, dans 10 ans, peut-être qu'il y a un auteur qui, en ce moment, est en vie, qui est ignoré, qui va devenir super connu. Puis là, on va vouloir aller chercher ses archives, puis on va réaliser que... elles ont été détruites. Fait qu'il y a tout l'aspect de ce choix-là, comment ce choix-là est fait, par qui ce choix-là est fait, au service de quoi, de quelle histoire, tu sais, l'histoire dominante, bien sûr. Tout ça qui est arrivé, là, puis qui m'a vraiment complètement jeté à terre.
On comprend rapidement ce que l'histoire peut faire des archives.
Oui.
Qu'est-ce que la littérature peut en faire?
Ah, ça, c'est tellement une bonne question. J'adore ça. Je pense que la littérature peut complètement aller de l'autre bord puis aller chercher des archives comme qui pourraient paraître complètement insignifiantes puis leur donner toute une histoire. Que, soit elle n'avait pas nécessairement, qui a été fictionnalisée, qui a été extrapolée, qui a été inventée de toutes pièces, mais qui vient vraiment combler un peu ce que les institutions cherchent à faire, ce que l'histoire cherche à faire, donc puis les autres disciplines.
La littérature, en plus, ça peut combler des vides.
Mais oui.
C'est ça que les historiens ne peuvent jamais faire.
Oui, absolument.
C'est
ça
que c'est le fun, les romans historiques. Oui. C'est ça qui sont comme, ah, ben, la mort de Kennedy, Stephen King, lui, a décidé que ça allait...
Oui, c'est ça, oui. Puis il y a plein d'auteurs, surtout là, en études afrodescendantes, là, les études culturelles et tout ça, ils n'ont souvent pas le choix de faire ça. Fait que là, maintenant, c'est devenu une discipline historique parce que... Puis ça s'appelle la fabulation historique, je pense. Ouais. Historical Fabulation, c'est ça? En tout cas.
Ça, c'est une traduction.
Oui. mais il n'y avait pas le choix parce que souvent, quand ils allaient dans les archives, il y avait plein de choses qui manquaient carrément. Là. Ou les gens n'étaient pas nommés parce que souvent, surtout dans les archives de l'esclavage, on donnait des numéros à des gens. Donc là, on n'avait comme pas le choix d'inventer un peu une histoire à ces gens-là pour qu'on comprenne mieux comment les choses se sont passées. Parce que dans l'histoire dominante, on a gardé les journaux des gens comme Samuel de Champlain, des rois, tout ça. On a accès à leur intimité puis à leurs pensées les plus, tu sais. Mais ces gens-là, non. C'est fait qu'on n'a pas le choix pour leur restituer une place dans l'histoire qui serait similaire, voire équivalente à ces grands hommes blancs-là, grands entre guillemets. On n'a comme pas le choix de leur inventer un peu une histoire, là.
Oui, puis ça permet aussi de justement d'explorer aussi la subjectivité.
Ouais,
parce que souvent, l'histoire a de la misère à faire, parce que c'est difficile de faire l'histoire des subjectivités.
Absolument, oui. Puis je pense que c'est un des éléments les plus importants, c'est la subjectivité, l'agentivité aussi.
Oui.
Parce que dans l'histoire, ces gens-là étaient des sujets, des objets, tu sais. Puis d'ailleurs, les archives, puis j'en parle dans le roman, les archives, une des plus grandes archives là, qui est explorée, là... en fait, qui est exploré par une poète canadienne qui s'appelle Nobe C. Phillips dans Zong. Elle parle d'un... Elle a comme créé tout un recueil de poésie où elle, justement, elle a restitué, elle a donné des noms à des esclaves qui ont été jetés par-dessus bord d'un bateau esclavagiste néerlandais, si je ne me trompe pas. Et la seule archive qu'on a gardée de ça, c'est l'archive pour la réclamation des assurances où la compagnie de bateaux, si je ne me trompe pas, avait fait une réclamation d'assurance pour les biens qui avaient été perdus, biens étant des êtres humains. puis finalement, on a découvert que c'était une fraude d'assurance. Ils ont, tu sais,
intentionnellement... C'est illégal jusqu'au bout. Là.
Ils ont intentionnellement...
C'est immoral et illégal à
oui,
la fois. Là.
Ils ont intentionnellement...
Parce qu'à l'époque, c'était légal.
Oui, ils ont intentionnellement jeté des gens par-dessus bord. Il y avait même un témoignage qui disait que des requins suivaient le bateau depuis plusieurs jours.
Oh non! Ouais. Ah, mon Dieu, mais c'est atroce.
Oui. Donc...
Donc, ça veut dire... Mais c'était légal. Là, tu entendais les guillemets. C'était légal à l'époque.
C'était pas légal. Je pense qu'ils ont même pas eu, ils ont pas eu l'argent. Non, ils ont la réclamation, là, ils ont pas. Puis
mais
je pense qu'ils ont même été.
Ce qui est fou. C'est là qu'on voit degré de
langage là-dedans, c'était que des biens qui avaient été perdus, pas des êtres humains.
Donc, c'est ça. Mon Dieu, c'est dégueulasse.
Il y a eu un procès, justement, après pour la fraude d'assurance. Puis encore une fois, ces gens-là étaient juste parmi des biens.
Oui, c'est comme une fraude de biens. C'est l'équivalent de frauder, par exemple.
L'assurance. Ouais, ouais.
C'est absolument dégueulasse.
Donc, elle restitue les noms dans ces archives-là à travers son recueil de poésie. Elle fait quelque chose d'absolument beau, magnifique, je le recommande d'ailleurs.
Ce qui est fou, c'est de dire que c'est immoral aujourd'hui à notre époque. C'est sûr qu'on regarde toujours ça à notre époque. C'est,
ouais.
C'était déjà dégueulasse à l'époque, mais aujourd'hui, tu sais,
on prend,
à l'époque, ils ne s'en rendaient même pas conscient, ouais. Mais c'est fou de penser que c'est illégal, mais pour cette raison-là.
Oui, oui, oui. Non, c'est ça. C'est illégal pour cette raison-là. Oui, vraiment.
Mais c'est débile d'être condamné. Tu sais, dans tout ça, c'est pour ça qu'il est condamné.
Oui. Oui, c'est pas pour le meurtre pour la fraude de comme d'assurance. 15 personnes, mais c'était plus que ça, je pense que c'était une quarantaine.
On me dit souvent qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, mais mon Dieu, on peut-tu des fois juste ça?
Oui, oui, oui.
Ouais. Ça a pas de bon sens. Peux-tu rappeler le livre?
Le livre, ça s'appelle Zong, c'est donc Z-O-N-G, point d'exclamation.
Okay, cool, je vais essayer de voir.
C'est excellent, vraiment, c'est magnifique.
Est-ce que c'est traduit ou c'est pour les personnes qui ne lisent pas l'anglais?
Je pense que oui, mais je ne suis pas certaine. Mais je l'ai vu, en fait, Nourbe C. Phillips faire une performance de ce livre-là à McGill pour une conférence au département de droit. Puis c'était comme spirituel comme expérience. Oui, oui, c'était incroyable. Vraiment, on le sent qu'elle vient quasiment appeler les hommes de ces personnes-là.
Ah
ouais. Ouais, c'est comme tout un rituel. C'est vraiment magnifique. Mais donc oui, pour moi, les archives, surtout quand on étudie les archives afrodescendantes, c'est côtoyer des fantômes.
Ouais.
J'essaie de t'amener par une question que je sais que tu veux me poser. Mais c'est ça, de côtoyer des fantômes, de côtoyer des personnes qui ont perdu leur voix un peu dans l'histoire, tu sais. Puis de leur redonner cette voix-là. Ouais.
Oui, fantôme. Mais en même temps, c'est que j'ai peur de dire un punch. Donc, j'ai envie de dire que j'ai pas trop.
Ah, ben là, c'est-tu un punch?
Ben, quand même.
Ben, peut-être un des. Oui, il y a peut-être un.
Tu comprends que pour moi, c'est un punch. J'aimerais en parler, mais j'ose pas.
Mais en même temps, dans le livre.
Si tu veux en parler, non. Vas-y.
Non, mais dans le livre, les fantômes sont quand même omniprésents. Il y a le fantôme de la sœur de la narratrice, qui n'est pas nécessairement morte. Là. C'est plus une espèce de
présence.
Oui, présence qui la hante. Il y a le.
Moi, j'imaginais ça un peu comme les hologrammes dans Star Wars.
Ouais. Oui, ça en a un bon.
Moi, je la voyais comme un fantôme, mais en même temps, c'est vrai que. Pas matériel et concret. Oui. Là.
Mais pour moi, la sœur dans le livre, c'est comme une manifestation un peu de son trauma familial.
Ouais. Okay, oui, oui,
ouais.
C'est une métaphore.
Une métaphore, oui. Il y a le fantôme d'une petite fille aussi qu'on peut supposer que c'est comme sa version, son enfant.
C'est elle.
Son enfant intérieur, elle quand elle était plus jeune. Puis le fantôme d'une grand-mère, c'est d'une femme plus âgée qui, est-ce que c'est comme un peu sa grand-mère, mais là, elle parle juste créole, ce fantôme-là, donc c'est pas nécessairement sa grand-mère, mais ça représente un petit peu, je voulais que ça représente un peu la figure maternelle haïtienne, là, qui est très, très protectrice, qui est aussi, dans la culture haïtienne, là, la femme, c'est celle qui est responsable de la transmission des savoirs, souvent de la contre-histoire aussi, c'est elle qui va raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les...
les non-dits de la famille.
Exactement. C'est souvent elles aussi qui vont faire les rituels vaudou, tu sais, la nuit, qui vont comme partager des secrets, qui sont la source de l'information un peu clandestine, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça, ces fantômes-là, je pense pas que c'est tant un punch que ça, mettons.
Non, mais c'est les qualifier. C'est que je voulais pas plaquer aussi des grilles, tu sais, dans le sens que, comme tu l'as dit, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Puis toi, t'es l'autrice. Alors, imagine pour moi.
Ah oui.
Dire, oh, ça, c'est sa petite fille intérieure. Puis je viens de décider ça pour tous les narrateurs.
Ouais, c'est vrai.
C'est laisser le suspens. Oui. J'osais pas trop qualifier les choses.
Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est comme. C'est libre à l'interprétation. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais ça veut pas dire que comme la petite fille, ça pourrait pas être sa future enfant. Ou, tu sais, comme c'est très
légendaire. J'avais des scénarios dans lesquels il y avait une ou deux interprétations possibles. Tu vois, toute sa grand-mère, moi, j'ai toujours voulu comme elle représentait Haïti pour elle.
Oui,
donc,
absolument. Mais oui, elle représente Haïti aussi, là, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Elle représente sa culture.
Juste pour parler de retourner aux archives, moi, ça me rappelle juste, j'avais vu un documentaire sur la peste noire. C'est comment l'histoire se fait, en tout cas, faire l'histoire. C'est Patrick Boucheron qui animait ça, tu voyais, c'est un registre notarial à Marseille. Puis à Marseille, c'est là que la peste est rentrée en Europe.
Ouais.
Et dans le fond, le passage de la peste, c'était un silence dans une page. Dans le fond, ce que tu vois, c'est une écriture, un gros espace, puis une autre écriture qui part. Puis c'est ça, la peste à Marseille. pour wow. quelqu'un qui fait l'histoire. Ouais. Donc, on voit comment ces silences-là d'archives, c'est difficile, d'où la pertinence du travail, justement, que la personne que tu nommais fait. Imagine même quelqu'un qui n'est pas attentif voit des biens. Tu ne poses pas la question de la notion du terme de bien matériel. Puis là, tout d'un coup, tu découvres finalement c'est des humains. Puis
pour reprendre l'exemple, la peste noire, pour les personnes afrodescendantes, c'est l'esclavage.
Oui, absolument.
Fait que ça a duré beaucoup plus longtemps.
Ah oui, non, tout à fait.
Puis les effets sont encore, tu sais, la peste noire, une fois que ça a été fini, puis tranquillement la population...
En fait, on ne sait même pas si la peste noire était là en Afrique.
C'est ça,
De mémoire, j'avais vu ça, dit dans le sens... Il y a des régions du monde qu'on ne sait juste pas. Parce que, dans le fond, il y a tellement de surmortalité dans certaines régions.
On trouvait une archive de cette région-là, on s'en foutait, on était comme...
Mais il n'y avait peut-être pas d'archives, justement, vu que c'était des...
Oui, c'est beaucoup de la transmission orale, ça, c'est sûr.
En tout cas, mais c'est vrai que c'est totalement la peste noire pour vous, c'est la fin du monde.
Oui, c'était la fin du monde pendant que ça se passait, mais encore une fois, c'est là où l'afrofuturisme s'insère très intimement à l'histoire afrodescendante, l'histoire de l'esclavage, c'est que les personnes en situation d'esclavage n'ont jamais arrêté d'espérer.
Ouais.
C'est d'être libre.
T'sais, oui, c'est ça qui est beau.
C'est d'ailleurs aussi le sujet du nouveau recueil de poésie de Stéphane Martelly, mon éditrice. Justement comment la
que
vie
que je suis en train de lire
qui est excellent d'ailleurs, tellement bon,
le travail sur la forme qui est intéressant aussi.
Puis justement parler de la vie, de la mort des personnes afrodescendantes, puis comment les deux peuvent être source de fatalité mais aussi d'espoir, puis de prospérité. Fait que comment les deux interagissent. Fait que, tu sais, pour les personnes afrodescendantes, oui, il y avait toujours l'espoir d'être libre, mais si ça c'était pas possible, on espérait la mort plutôt, puis la finalité de la mort, tu sais, à la place d'être complètement...
C'est fascinant, puis encore aujourd'hui, on découvre des choses. Puis
au Canada, on découvre beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de gens...
On s'est longtemps vécu comme les grands... Le monde venait se réfugier ici, ce qui était une histoire dans laquelle c'était facile de se draper.
Oui,
les historiens.
Mais non, il y a eu de l'esclavage. Il y a eu de l'esclavage à Montréal. Ouais. Ça n'a jamais été légalisé, ça n'a jamais été comme ça, jamais fait partie de comme nos lois. Mais c'était quelque chose qui était toléré puis qui n'était pas criminalisé non plus.
Exactement.
Donc, il y a eu plusieurs esclaves à Montréal. D'ailleurs, il y a Webster qui a sorti un livre pour, jeunesse qui s'appelle Charlotte.
Ou le livre Noir sur surveillance nous permet.
Oui, Noir sur surveillance aussi, on le voit là-dedans. Mais c'est ce Charlotte aussi qui est sorti, je pense, ce printemps, qui est illustré, magnifique aussi, très poétique.
C'est un livre pour enfants.
C'est un livre pour enfants, mais moi, je l'ai lu puis j'étais comme, mon Dieu, c'est un recueil de poésie. Extrêmement bien écrit. Très, très poétique. Donc, vraiment, moi, je dis que c'est tous âges. Les dessins sont magnifiques aussi. Puis, il y a même un petit dossier à la fin sur l'esclavage à Montréal. Donc, ils ont vraiment fait l'effort aussi d'inscrire ce livre-là dans l'histoire. Même si on spéculait, ils n'ont pas le choix, là, pour redonner une histoire à Charlotte, mais qui était une vraie esclave, là, qui a vraiment... elle est passée là, dans le système de justice canadien parce qu'elle voulait se faire affranchir. Là. Fait que, il y a des archives sur elle. Donc, ils ont vraiment fait l'effort aussi de monter un dossier historique. Il y a eu le même effort avec Marie-Angélique à Montréal, là, qui avait brûlé le centre-ville de Montréal, qui était rentrée dans les archives à cause de ça, parce qu'elle avait été, jugée pour cet acte-là. Mais si elle n'avait pas commis cet acte-là, on n'aurait jamais su qu'elle avait existé. Si les esclaves n'étaient pas passés par le système de justice pour obtenir leur liberté, on n'aurait jamais su qu'il y ait de l'esclavage à Montréal, au Canada. Donc, ça prend des gens pour déterrer ces archives-là parce que c'est comme le seul endroit où ces gens-là se retrouvent, malheureusement. Mmh. Ouais.
Dans ton livre, il y a aussi un rapport à la famille qui est difficile. Mmh. On en a parlé dans une série de figures. Il y a une distinction que j'aimerais faire, puis je vais te laisser la faire, en fait. C'est quel rapport voulais-tu mettre de l'avant entre le rapport qu'on a par rapport à nos familles et qu'on a par rapport à nos racines? Ce qui n'est pas exactement la même chose.
C'est sûr que pour ce livre-là, puis j'aimerais ça, dans mes futurs écrits, qu'il y ait un peu plus de positivité, parce que maintenant, j'entretiens une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus paisible avec mes origines et ma famille.
Okay.
Ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que j'ai eu une vie familiale... pas nécessairement tragique, là, mais ça peut être ça. C'est divorce, des choses comme ça. Donc oui, pour moi, la famille, surtout au moment où j'écrivais le livre, j'étais comme dans une période de ma vie où j'avais de la difficulté à quitter le nid familial. Puis tous les jeunes qui ont vécu la pandémie, là, qui étaient dans la mi-vingtaine, ont vécu la même chose, de devoir retourner chez ses parents parce qu'ils avaient perdu ta job. Parce qu'il y a tellement d'instabilité dans le monde, parce qu'il faut que tu te confines puis tu veux pas être tout seul. Donc, tu sais, moi aussi, j'ai vécu ça. Mais c'était un moment où, justement, tu sais, j'avais quand même 25, 26 ans, donc mes parents s'attendaient à ce que j'aie une certaine indépendance. Fait que c'était comme de voir ce rapport-là changer, qui n'a pas été facile. Je trouve aussi que dans notre société, là, on devient adulte très tard. De plus en plus, on dirait que maintenant, là, tu deviens vraiment un adulte autour de la trentaine, là. Dépendamment des régions, mais à Montréal, on dirait que maintenant, c'est plus vers la trentaine, mais... Fait qu'il y a toute une période, je trouve, dans la vingtaine où on doit renégocier son lien à la famille, à ses parents, où on est comme encore un enfant à leurs yeux, pas tout à fait indépendant.
On sera toujours un enfant.
Ouais, mais, tu sais, dans la vingtaine, tu vis encore une certaine instabilité, là.
Surtout pour ceux qui restent aux études
longtemps. Exactement. Surtout pour ceux qui restent aux études longtemps où t'es pas totalement indépendant financier. Suffit qu'il arrive une affaire, tu perds ta job, t'as pas assez d'économie pour te remettre sur tes pieds.
Surtout les loyers à Montréal, ça fait ça.
Exactement. Tu sais, comme... Fait qu'il y a toute une tranche de la vie où on n'est pas enfant, mais on n'est pas adulte non plus. Puis on doit s'affirmer aux yeux de ses parents, trouver sa place dans sa famille. Aussi, accepter la distance, parce que là, on n'est plus un enfant qui a besoin d'autant de soins, d'autant d'attention, tout ça.
On a besoin d'espace et de sécurité.
Ouais, exactement. Fait que ça a créé comme une espèce d'ambivalence dont je trouve qu'on n'en parle pas énormément, là, encore. J'ai l'impression que ça va venir, mais... Oui, donc c'est un peu ça que je voulais explorer, l'espèce d'absence des parents, parce qu'on est adulte, parce que pour nous, on n'est plus un enfant, puis parce que tes parents non plus te considèrent plus nécessairement comme un enfant, mais ce regard quand même surélevé qu'ils ont sur toi, tu sais, autoritaire quand même aussi, qu'ils ont sur toi.
T'es quand même chez eux.
Oui, puis qui est comme, qui plane toujours, toujours un peu, qui plane toujours un peu autour, autour de nous, là.
Et dans ton livre, on voit le père qui revient constamment, puis il y a un effacement graduel de la narratrice à travers ça. C'est la métaphore de quoi?
Ben, encore un peu, comme ce que je viens de dire un petit peu, c'est la métaphore de... Moi, c'était comme un peu, justement, une peur associée à ça, tu sais, le fait d'avoir encore besoin de ses parents à un certain âge où tu devrais plus nécessairement en avoir besoin, puis de voir que même tes parents, eux, peuvent... Tu sais, que leur vie continue, qu'ils ont des nouveaux départs. C'est surtout pour des enfants dont les parents se sont séparés ou qui ont récemment perdu un des deux parents, puis de voir son parent refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Il y a toujours un peu ce souci d'être comme abandonné ou délaissé, même si c'est pas du tout ça qui se passe au final. Là, c'est plus comme la perception. Je pense que je voulais exprimer la perception qu'on peut avoir.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait valide aussi.
Oui. Parce qu'on est content pour nos parents là, qui refassent leur vie, là, c'est sûr. Mais justement, il y a comme un deuil qui est fait par rapport à l'ancienne
version.
Il y a une
nouvelle
version.
Relation, nous, à créer aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est teinté d'angoisse.
Hein. Oui, mais c'est ça, le deuil de la famille conventionnelle, des modèles qu'on avait avant. Là,
qui est absolument là. C'est une dystopie, mais c'est aussi une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour même avec de l'IA. Donc, il y a quelque chose de très « eux » là-dedans, mais en version...
qui est un de mes films préférés.
Oui, mais ça j'en doute vraiment pas. Mais c'est drôle parce que, présentement, j'anime un cercle de lecture avec Véronique Grenier sur les dystopies, puisque je me rends compte, en fait, c'est que généralement, dans les dystopies, il y a beaucoup d'amour. Ouais. Il y a toujours des histoires d'amour.
Oui, vraiment. Oui. C'est
même
ça
d'affaires
qui nous porte.
Où il y en a que ça, tu sais, dans Le meilleur des mondes, la fille se rend pas compte qu'elle tombe en amour du sauvage. Mais quand même, c'est comme ça qu'elle le nomme dans le livre. Mais au début, mais tu sais, elle sait même pas c'est quoi, mais c'est quand même ça qui est en train de se passer. Oui. Il y a juste d'en faire à Night que c'est plus ou moins. C'est plus un remède sur l'amitié, là, parce que l'histoire d'amour est totalement absente, en fait. Mais justement, c'est plus une histoire sur l'amitié. Mais à part Fahrenheit, il y a beaucoup d'histoires d'amour. Qu'est-ce que l'amour amène, comme je dirais, comme épice dans une dystopie?
Épice, oh my God.
Parce que ça fit vraiment bien, là. Parce que j'étais en train d'explorer d'autres livres, puis c'est très filial, famille, amour. On le voit là, que c'est quelque chose que les dystopies aiment bien mettre en scène.
Ouais, mais je pense, parce qu'au final, je pense que ce qui intéresse le plus les dystopies, c'est d'abord un peu la relation qu'on a à soi-même, par rapport au monde qui est dystopique, là, puis comment ça nous affecte. Mais aussi, comment... Est-ce que ça change les relations humaines ou comment est-ce que ça les change pas? T'sais, souvent, l'amour, je trouve que dans les dystopies, la science-fiction en général, c'est quelque chose qui est comme un peu immuable par rapport à notre présent, par rapport au passé. On dirait que c'est comme... On va chercher une espèce d'universalité à travers l'amour. Que c'est tellement un sentiment pur et fort qu'il n'y a rien qui peut vraiment changer ça.
Ouais, puis c'est ça qui est atroce dans 1984, c'est que le pouvoir il est tellement fort qu'il va le détruire.
Exactement, oui.
C'est pour ça que c'est la pire des dystopies.
Oui, oui.
Parce que je pense, moi, c'est ma théorie sur 1984, c'est la pire parce qu'elle va briser l'amour.
Oui, oui. Puis je pense
plus que les autres.
Oui, je pense que l'amour aussi, c'est quelque chose que... C'est une des rares choses que tout le monde peut ressentir avec une violence... Inouï.
C'est vrai que c'est un sentiment qui vient avec une certaine violence.
Ouais.
C'est parce que tu deviens tellement intime avec quelqu'un exactement. Que c'est facile d'être violent sans même le vouloir. Tu sais, on parle beaucoup de la violence aujourd'hui dans les couples. Puis c'est tout à fait sain et normal d'en parler, qu'on libère la parole. Mais quand même, c'est que c'est, des fois, même tu le sais, là, tu es en couple avec ton chum depuis longtemps. Moi, j'ai une conjointe aussi. T'sais, tu te connais tellement bien. Puis des fois, puis t'es tellement tout le temps que c'est tellement facile de blesser quelqu'un. Des fois, juste en étant un petit peu plus distant, juste
Absolument.
Tu veux pas, t'es dans ta tête, mais juste ça, déjà, ça peut être violent.
Ouais.
Alors imagine quand un pouvoir externe qui se mêle là-dedans, puis lui veut faire mal, tu sais.
Oui. Puis moi, tu sais, je pense aussi à la violence de l'amour en termes de l'intensité. Tu sais, quand tu tombes amoureux, là, c'est pas pour rien qu'on dit tomber. Là. Tomber, c'est pas quelque chose.
Oui, c'est pour ça que souvent, quand tu tombes en amour, tu vas te faire mal à la fin.
Oui, tu vas te faire mal à la fin, mais même l'acte de tomber en amour, tu sais, c'est tellement quelque chose d'intense qui peut occuper une place tellement, tu sais, étouffante par moment. Puis même, ça n'a même pas besoin d'être violent, c'est juste parce que des fois, l'amour, ça amène à l'obsession, des fois, ça amène. Tu sais, il y a toutes sortes de choses, comme c'est tellement une émotion.
Et tu peux faire mal autour de toi avec l'amour, dans le sens où tu peux négliger des liens par amour, tu négliges des amitiés.
Tu peux négliger toi-même.
Tu peux négliger toi-même et te faire mal. Non, c'est vrai, tout à fait que.
Fait que je pense que c'est pour ça que l'amour et la dystopie se marient bien. Tu sais, parce que dans la dystopie, il y a toujours une certaine violence. Puis souvent, l'amour va venir jouer avec ça.
Puis son rêve, c'est de briser les liens. Puis quand elle brise l'amour, ben là, c'est dans La Servante écarlate, c'est ça qu'elle fait.
Oui.
De Luc tout le long.
Mm-hmm.
On se demande que. On voit que c'est l'amour qui les sépare. Mais on ne sait pas comment ils ont été séparés, mais on le sait.
Non. Puis tu sais, moi, j'ai juste vu les émissions, donc apprendre avec un grain.
T'as pas lu le livre?
Non, c'est dans ma pile. C'est dans ma très haute pile. Mais oui,
mais
il faut.
On peut pas tout lire.
Je sais, mais il faut. Mais ça, c'est.
Tu vas aimer ça.
Des fois, absolument, je la lise. Mais en tout cas, de ce que je vois dans l'émission, puis j'imagine que c'est fidèle au livre, parce que c'est quand même Margaret Atwood qui a participé énormément là, à l'émission aussi. On est vraiment porté par les émotions de du personnage principal, par l'amour qu'elle a pour les gens, puis que c'est pour ça, c'est ça qui la motive à agir, puis à toujours être dans la résistance, dans la révolte. Tu sais, fait que je trouve que l'amour, c'est souvent ça aussi qui va venir motiver les personnages, comme les intentions des personnages.
Tu parlais des émotions qu'apporte. On va finir avec cette question-là.
Mm-hmm.
Quelle émotion ton livre porte, selon toi?
Oh my God. J'aurais tendance à dire quelque chose de négatif.
C'est pas grave, ça peut être une... Moi, je vois une mélancolie dans ton livre.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Mélancolie, solitude. Oui.
Puis c'est beau.
Mais j'aime mieux mélancolie que solitude.
Oui, parce que je... Non, moi aussi, j'aime mieux... Parce que... Puis c'est une douce mélancolie.
Oui, quand même.
Puis c'est correct aussi.
Oui. Puis je pense que c'est comme fidèle aussi au confinement d'une pandémie, tu sais, que j'ai... pas non plus être super négative, mais j'ai l'impression que peut-être que ça va nous arriver dans la vie. Éventuellement, je ne nous souhaite pas bientôt, puis j'espère qu'on va l'éviter vraiment, vraiment. Je pense qu'on pourrait l'éviter, mais on n'est pas à l'abri là, des futurs, de futurs virus aussi intenses que la COVID, disons. Puis je voulais
on va peut-être être à l'abri plus vite. On voit maintenant qu'avec les vaccins...
Oui, les vaccins sont tellement plus rapides maintenant.
Mais c'est possible.
Oui, puis c'est possible aussi qu'on ait peur de revivre ça, tout simplement, qu'on pense que ça va arriver. Mais je voulais vraiment rendre justice à ce moment-là qu'on a vécu aussi, où tout le monde a vécu une certaine solitude, une certaine mélancolie qui était très, très, très intense. Puis il y avait quand même de la beauté là-dedans un petit peu aussi.
Oui.
On s'est tout un peu trouvé pendant la pandémie, on dirait.
On n'a pas eu le choix, en fait, de se retrouver.
Non, on n'a pas eu le choix. On s'est tout un peu perdu, puis j'ai l'impression qu'on s'est tout un peu trouvé pendant ou après, tu sais. Mais je voulais quand même marquer ça dans... Moi, j'ai pas envie de dire histoire, là, parce que c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais j'avais envie
marquer
de...
Marquer ça dans la littérature.
Oui, mémorialiser ça.
Je souhaite que les personnes... Il y a une douce mélancolie confortable à les retrouver dans ce livre. C'est vraiment un beau premier livre. J'ai hâte
Merci
au prochain.
Beaucoup,
Léa, je sais que là, tu as un doctorat et tu enseignes, donc tu es déjà bien occupée.
Ouais.
Vaut mieux un bon livre, vaut mieux moins de livres et qu'il soit bon que plein de livres, mais j'ai vraiment hâte au prochain, Léa.
Merci. Bien, merci de m'avoir eu pour cette... Ça a été tellement plaisant, vraiment, là, cette discussion.
Plaisir.
J'ai eu beaucoup de plaisir.
Un plaisir absolument partagé.
«
Je tiens à remercier Léa Muringold pour ce très, très bel entretien. Si vous voulez la lire, je vous conseille de lire « Les rythmes de la poussière » aux éditions du Remue-Ménage. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe de CFAK pour le soutien logistique et technique en lien avec cette émission. On se revoit le mois prochain.